Bonsoir Marie-Dar Yosek.
Bonsoir.
On est avec vous pour parler de votre dernier roman qui s'intitule « Fabriquer une femme » aux éditions POL et dans lequel on retrouve Solange et Rose, qui sont deux personnages qui sont avec vous. Pourquoi ?
Bon, parce que Solange et Rose, c'est moi et moi, et puis c'est pas moi et c'est pas moi, ça c'est on s'en fiche un peu. Mais je suis arrivée à un âge vers 40 ans où je n'avais plus peut-être la force ou le besoin, je sais pas, d'inventer des nouveaux personnages. Ce qui était là dans ce roman qui s'appelle Clève et qui est un peu le roman matriciel d'une sorte de série, hein, même si tous les volumes sont parfaitement séparables. Ces deux créatures, ces deux jeunes femmes me suffisent en quelque sorte pour explorer ce que j'ai à écrire dans un certain champ. Parce que ces romans à la troisième personne, qui sont des romans qui mettent en jeu beaucoup de personnages et beaucoup de lieux par lesquels je suis passée, y compris Bordeaux, qui est très présent dans le livre, ces romans-là sont une partie de ce que j'écris. Et puis j'ai d'autres romans à la première personne, très brefs, qui sont souvent un petit peu vers la science-fiction et qui, eux, sont les héritiers de mon premier roman, Truisme. En fait, mes deux premiers romans, Truisme et Naissance des fantômes, en 96 et 98 sont en fait au démarrage de toute une série de livres.
Quel rapport vous avez avec Solange et Rose aujourd'hui, finalement, alors ?
Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Elles me suffisent pour essayer ce que j'ai encore à essayer. Je viens d'avoir 55 ans. J'ai encore beaucoup de livres en tête, dont au moins un, si c'est pas deux, où je vais les ressortir de leur boîte, un peu comme des Playmobil. Hein. Je vais faire vivre d'autres aventures. Je vais probablement mettre en mouvement leurs enfants, parce qu'à la fin du livre, elles ont des enfants. Ce sont de jeunes adultes à la fin du livre. Une, Solange, a eu un bébé d'une façon catastrophique, beaucoup trop tôt, à 15 ans, on en reparlera peut-être. Et Rose est plus dans les clous, disons. Et donc voilà, quel rapport j'ai avec elle, je sais pas dire mieux que c'est moi et c'est pas moi, quoi. C'est voilà,
c'est marrant parce qu'en fait, en vous lisant, à force de lire vos livres, on a l'impression qu'il y a quelque chose presque d'une forme de sororité avec ces personnages, comme si elles étaient des bonnes copines et puis en même temps quelque chose de la famille. Elles ne sont pas sœurs entre elles, mais il y a quelque chose d'assez fort.
En tout cas, elle représente deux types de femmes. Le livre s'appelle « Fabriquer une femme », donc je sais assez bien ce que je cherche, quoi. Je cherche à montrer de façon absolument pas théorique, de façon narrative, vraiment dans un récit que j'espère amusant et enlevé, et en même temps qui incite les lectrices et les lecteurs à penser à leur propre expérience. Mais j'essaye de faire deux styles de femmes assez différentes, au point que quand j'avais fini le premier jet, j'ai regardé ce que j'avais fait et je me suis dit, elles sont pas encore assez différentes. C'est bien qu'elles aient des points communs, elles en ont, elles sont du même village, elles étaient voisines petites, enfin, mais il faut que je creuse encore, que je cherche encore à mieux dire leurs différences. Et en particulier, elles ne sont pas nées dans le même milieu social. Ça se joue à pas grand chose, mais ça se joue quand même à une piscine. Et quand j'étais dans ce petit village du Pays Basque, à l'époque, dans les années 80, il y avait seulement deux piscines dans le village. Et c'était des gens très aisés qui avaient des piscines. Et donc Rose, elle a une piscine. Et ça marque, ses parents sont, disons, plutôt des bourgeois. Solange, elle est née dans une famille où c'est assez rugueux, quoi, la vie. Hein. C'est assez dur.
Cette histoire de piscine et puis cette histoire aussi finalement de différence sociale se joue entre elles deux, mais aussi avec les autres personnages de ce village. C'est vraiment des familles assez typées. Et alors, c'est rigolo parce que il y a cet élément-là. Il y a évidemment l'agent immobilier qui est un personnage que vous aimez, qu'on retrouve aussi dans votre écriture. Et puis, dans des livres qui n'ont rien à voir avec cette série où on retrouve Solange et Rose, il est question aussi, je trouve, d'une colonne vertébrale. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait en lisant votre livre-là. D'une question sur l'espace. Le rapport à l'espace que nous avons, qui nous définit, qui nous raconte, qui fait de nous ce que nous sommes. Quel rapport vous avez-vous avec l'espace ?
Il y a peut-être deux sortes d'écrivains ou d'écriture. Il y a les écrivains, et c'est très bien, qui valorisent l'histoire à tous les sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on raconte, mais aussi l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, c'est-à-dire vraiment les événements historiques et comment les personnages ou les gens interagissent dans la grande histoire. Et moi, j'ai l'impression, très spontanément, hein, c'est pas un choix conscient, mais j'ai l'impression de valoriser beaucoup la géographie et d'être une écrivaine très géographique, très consciente de là où je suis née, sans être une écrivaine du terroir non plus, parce qu'il y a un écueil à ça. Enfin, il faut pas oublier que depuis le terroir, la planète est très vaste, quoi. Enfin, il faut vraiment essayer de s'adresser à des gens qui sont pas du tout nés au même endroit. Et d'ailleurs, mes deux personnages en partent et puis reviennent. Bon, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Mais je suis très sensible à... C'est toujours beaucoup plus intéressant pour moi de me rappeler à chaque phrase que nous sommes des êtres debout sur une planète de taille moyenne, qui n'est même pas au centre du système solaire, hein, et puis qui n'est pas au centre de la galaxie du tout, pour le coup, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le bord de la galaxie. Et c'est déjà une assez grande blessure narcissique, je trouve, de penser ça, qu'on n'est pas du tout au centre de quoi que ce soit. On est une petite planète parmi plein d'autres. Notre Soleil est une étoile moyenne aussi, qui est parmi plein d'autres étoiles. Et c'est toujours beaucoup plus intéressant de considérer les choses de ce point de vue-là que de faire de la psychologie. C'est très bien la psychologie, hein, ça aide à vivre. Mais moi, je me refuse toujours à dire des phrases du style « Elle se sentait très angoissée parce que sa meilleure amie ne lui avait pas téléphoné depuis 2 semaines ». Non, je déteste ça. C'est à vous, c'est au public, à mes lecteurs et mes lectrices, de sentir l'angoisse du personnage. Et j'espère que ça va rappeler à chacun, chacune, une angoisse équivalente. On a tous et toutes vécu ça, évidemment, d'attendre après quelqu'un qui n'est pas assez présent pour nous. D'installer la situation des personnages pour que cette angoisse-là naisse. Et c'est une angoisse qui n'est jamais déconnectée du fait qu'on a un certain nombre d'années à vivre sur une boule de terre dont tout le monde se fout, au fond. Enfin, je veux dire, si on n'est pas là, si... Et j'écris depuis là, quoi. Et ça m'a toujours permis de décoller d'une certaine, disons, psychologie toute faite, enfin, de phrases. Je m'efforce d'écrire des phrases, c'est pas pour embêter le monde, hein, mais c'est... qui sont pas des phrases toutes faites, quoi. Qui sont des phrases qui, à chaque fois, remettent en mouvement ce que c'est que d'être un être humain, voilà. C'est très ambitieux, en même temps, c'est très simple. Une des choses qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est cette espèce de désavantage initial d'être une fille. Parce qu'en particulier, dans ma famille, les filles étaient quand même moins bien notées que les garçons, quoi. C'était une famille patriarcale du Pays Basque, ça a quelque chose de normal, hein, entre mille guillemets. Et c'était drôlement intéressant de regarder le monde de ce point de vue-là. Et quand j'ai été publiée, je me suis aperçue, et j'étais pas la seule très vite, que je faisais partie d'une génération de jeunes femmes. C'était notre moment. On avait des grandes prédécesseuses comme Duras, Sarraute, Beauvoir, bien sûr, Virginia Woolf, ou des un petit peu moins connues, mais vachement intéressantes aussi, qui pouvaient être Christine de Rivoire, Madeleine Chapsal, des gens comme ça, des femmes qui étaient intéressantes, Françoise Malé-Joris. Bon. Mais nous, là, c'était notre moment, parce que la presse et les lecteurs, les lectrices étaient prêts à recevoir notre version des choses, notre vision du monde. Et il y avait Lydie Salver, Christine Angot, Virginie Despentes, Lorraine Nobécourt, et des tas de femmes qui arrivaient là. Et on a été très... ça a été un très grand moment littéraire pour attraper le monde de ce côté-là des choses. Voilà, pour attraper le monde du côté... Bah nous, on en savait un rayon sur la domination masculine. Et on en savait un rayon... c'est ça qui est formidable quand on écrit et qu'on est une femme au départ, au démarrage. C'est qu'on a bien été obligé pour faire sa place dans un monde d'hommes et même pour traverser la rue dans un monde d'hommes, pour rentrer chez soi à 1h du matin dans un monde d'hommes, pour aller faire du vélo toute seule au bord du chemin de halage à Bassussari dans un monde d'hommes, etc. Pour aller aux fêtes de Bayonne dans un monde d'hommes, on a bien été obligé de s'intéresser à ce que c'était un homme, à comment ça pensait, et à ce que nous, on était amenés à faire là au milieu, à quelle stratégie adopter. Et il y a des hommes super intelligents, et en particulier dans le livre, il y a Christian, l'agent immobilier, qui n'a pas du tout envie d'obéir aux injonctions de virilité qui pèsent sur ses jeunes épaules dans les années 80. Hein. Mais il n'est pas obligé, lui, de penser à la place des femmes. Il n'est pas obligé de faire l'effort de se dire comment elles se débrouillent, comment elles font, pourquoi elles sont dans cette place-là et moi dans celle-là. Parce que quand même, ça va aller pour lui. Et nous, les filles, on était bien obligées de se demander comment on allait rentrer des fêtes de Bayonne. Et bien, ça, et ben, d'une certaine façon, ça rend très intelligente. Ou ça vous massacre. Mais si vous survivez, ça vous rend très intelligente.
C'est la raison pour laquelle votre livre se passe dans ces années 80 aussi.
Elles sont très intéressantes, les années 80, pour les hommes et les femmes. Enfin, je parle en termes d'histoire à raconter. Hein. C'est tout ce qui m'occupe, moi. C'était, bien sûr, je ne suis pas la première à le dire, les années fric, les années tapis. Mais c'était les années aussi où l'hétérosexualité était à son comble, en quelque sorte. Et moi, je vivais ça assez instinctivement, en essayant de me débrouiller là au milieu. Ça me passionnait, le sexe, le désir. J'avais très envie d'aller voir. C'était avant le sida. C'est très important. On y reviendra sûrement, parce que moi, le sida, je l'ai vécu à Bordeaux. C'était des années terribles. Mais avant, dans une espèce d'insouciance du milieu des années 80 au Pays Basque, il fallait faire dans ce régime politique qu'est l'hétérosexualité, mais qui était présenté comme quelque chose qui allait de soi, comme un état de nature. Être homosexuel dans mon village dans les années 80, waouh, c'était... En fait, je ne vois pas qui l'était à l'époque. Alors, les lesbiennes, laissaient tomber, ça existait juste pas, c'était pas calculé. Ou alors, c'était pris dans l'hétérosexualité, enfin, c'est le schéma classique, pour s'exciter avec, quoi, pour que les hommes s'excitent avec. Mon père était comme ça, je lui jette pas la pierre, hein. Lui aussi, il faisait ce qu'il pouvait dans ce système-là. Mais il se trouve qu'il en était totalement gagnant. C'était tout bénef pour lui, ce système. Les femmes étaient supposées être libérées, mais pas trop, hein, attention. C'est-à-dire qu'on avait le droit de coucher, mais pas trop. Fallait pas non plus passer pour la salope du village. Alors là, je vous mets au défi de savoir quel comportement adopter. On avait le droit de coucher, mais fallait pas que ça se voit trop. Voilà. Et bon, il se trouve que moi, j'ai eu suffisamment de privilèges culturels. Enfin, mes parents étaient des lecteurs. C'était des gens de la classe moyenne, mais c'était des lecteurs. Et ils m'ont poussé dans mes études. Certains profs, à qui je dois beaucoup au lycée de Bayonne, m'ont poussé dans mes études. Ça m'a permis d'accéder à une espèce de liberté de pensée, vraiment, et de regard sur ce qui m'était arrivé. Et puis après, il y a eu la génération, enfin les générations d'après moi et d'après MeToo, qui sont des gens extraordinaires, et la génération de mes enfants, qui sont des jeunes adultes. Quand je décris certaines, avec pudeur, certaines de mes expériences amoureuses des années 80 à mes enfants, ils sont prompts à crier à l'agression sexuelle, en fait. Et une de mes filles me dit « Mais t'as pas porté plainte ?» Je lui dis « Mais où voulais-tu que j'aille porter plainte ? Comment j'aurais décrit la situation ? Et à qui ? À quel flic ? Puis à quel juge, après ? Et certainement pas à mes parents. » Donc, allez, c'était l'époque, malheureusement, c'est quand même toujours le cas, mais c'était l'époque où une fille qui se faisait violer parce qu'elle est quand elle était bourrée, non pas parce que, mais justement, c'était vu comme un parce que. Je suis rattrapée, moi, par des vieux réflexes comme ça. Quand je raconte certaines histoires à mes enfants, heureusement, moi, j'ai échappé au viol, hein, mais j'ai pas échappé aux agressions sexuelles. Et je vais toujours pour l'expliquer comment que j'étais pourtant habillée tout à fait correctement, et mes enfants m'engueulent, quoi. C'était. C'est eux qui m'ont fait comprendre que c'était pas... Mais c'est ça que je raconte. Là, j'ai l'air très théorique, comme ça, mais... Ce que je raconte dans mon roman, c'est que Solange et Rose, elle croit que c'est à elle de s'adapter à ce monde, alors que la raison voudrait que ce soit aux garçons de modifier leur comportement et pas aux filles de modifier ou d'adapter leur comportement. Mais dans mon village, au Pays Basque, on continue, Je le sais dans les discussions. Il y a eu un malheureusement au fait il y a 3-4 ans. Il y a eu une très jeune fille qui s'est fait violer à la fin des fêtes. Et en discutant avec les édiles locaux, les édiles blâment les parents de la gosse parce qu'ils l'ont laissé sortir à 1h du matin. Et c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Ils blâment pas les garçons qui l'ont violée. C'est terrible. Moi, ça me bouleverse, quoi. Et j'écris mes romans aussi contre ça. Pour essayer c'est une révolution copernicienne, hein. C'est très dur à faire, mais c'est de faire changer le regard. C'est les garçons qu'il faut éduquer différemment. C'est pas dans à Paris où je vis, la plupart du temps, sinon je suis très souvent au Pays Basque, que j'adore, hein. Mais à Paris, encore très récemment, il y avait des campagnes d'affichage dans le métro où on expliquait aux femmes quoi faire en cas d'agression. Mais punaise, il pourrait pas y avoir des affiches en 4 sur 3 pour expliquer aux mecs qu'il faut pas agresser les femmes, qu'il faut pas les tripoter dans le métro, quoi. Ça me fatigue et en même temps, j'en fais mon miel pour les romans. On marche tellement sur la tête que c'est presque rigolo à raconter, quoi.
Mais c'est, alors effectivement, comme vous le dites, votre livre est à la fois très drôle et en même temps très bouleversant, finalement, de ce point de vue-là, de voir ces deux jeunes femmes. Dans ce livre, particulièrement, vous avez une écriture qui est à la fois fiévreuse et en même temps, ça parle de l'innocence, ouais, mais qui doit s'adapter.
Oui, c'est ça. Elles sont innocentes, elles sont candides. J'aime beaucoup les personnages candides. J'ai encore un fond candide. Enfin, il y a encore des choses qui me stupéfient, mais j'ai été extrêmement candide, et en particulier dans mes années bordelaises où j'étais. Je suis arrivée à Bordeaux, j'avais 17 ans, et j'en suis partie à 19 ans et demi. Et j'ai fait 3 années de classe prépa au lycée Montaigne, dans une ville que certains d'entre vous ont connue, hein, qui était une ville très noire. Les murs étaient noirs de suie, de pollution. Il n'y avait pas de tramway. On restait bloqué des heures pour aller à la fac de Talence dans des bus qui étaient pris dans des nœuds de circulation. Les quais étaient affreusement dangereux pour les filles. On n'y allait pas. Et j'ai été adoptée par une boîte homosexuelle. Bordeaux était déjà très gay-friendly, qui s'appelait le Men's. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient ici du Men's. Ça me bouleverse parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Alors, il y avait le Babylone, il y avait le Moyen-Âge, qui était une autre boîte gay. Il y avait le Men's, qui était un petit club privé. Il fallait sonner à la porte. Au début, j'étais avec un copain dont il y a un personnage qui s'appelle Brice, qui s'inspire beaucoup de cet ami. Et on n'osait pas sonner, on était des gamins, quoi. Qu'est-ce qui nous amenait là? Lui, mon copain, il voulait vivre son homosexualité, mais il savait pas comment. Et moi, j'étais harta, comme on dit chez moi, de l'hétérosexualité. J'en pouvais plus. Ça avait été vraiment rude, quoi, au Pays Basque. Et j'ai découvert dans cette boîte, quand on a enfin réussi à en pousser la porte, un accueil, une chaleur humaine, une excellente musique. C'était assez pionnier sur la musique. C'était la new wave britannique. C'était très dansant. Et je suis devenue un peu la chouchou de la boîte. Et j'étais la seule fille. Et c'était un immense repos. Parce que j'étais acceptée, choyée, accueillie. On me demandait comment j'allais, on m'offrait des coups à boire, évidemment, tout le monde fumait. Mais personne ne me draguait. Mais quel repos! Oh, quel repos quand on est... Mon premier roman, Truisme, est né du harcèlement de rue. J'ai mis des années à le comprendre. Je l'ai compris grâce à des femmes comme Virginie Despentes, ou à l'époque Béatrice Preciado. Elle s'appelait Béatrice à l'époque. C'est elle qui m'a fait comprendre que le dispositif de l'espace public était en fait une série de péages à filles, et qu'on était sans arrêt arrêtés par des bandes de mecs qui nous évaluaient, qui nous voyaient venir. Alors les escaliers, c'était le pire, ou les escalators. Il y a toujours des mecs qui ont des escalators qui regardent monter les filles, ils ont que ça à faire. Et ils vous évaluent. Et de toute façon, que la rue était un espace qui n'était pas aux filles, et que les filles affrontaient à leurs risques et périls. J'ai l'air très dramatique, mais poser la question encore aux jeunes filles d'aujourd'hui. Hein. Les filles et les garçons qui peuvent être catalogués comme efféminés, qui vivent aussi un calvaire. Hein. Et c'est grâce à des penseuses, vraiment à des théoriciennes du féminisme et du genre, que j'ai compris mon expérience dans la rue. Cette expérience, c'était d'être constamment interrompue. J'étais pas plus jolie qu'une autre. J'avais juste cet air un peu bécassine à Bordeaux, quoi. Et puis après bécassine à Paris. Je croyais que j'avais naïvement le droit de prendre mon temps, de flâner, de regarder les gens, les murs, de regarder. Non, j'ai vite appris à fixer mon regard sur le sol, ce qui est déjà une soumission, quoi. Parce que si on croisait le regard de certains mecs, pas tous, hein, ils se croyaient autorisés à vous interrompre. Mais la plupart n'étaient pas des violeurs, bien entendu. C'est juste que le système faisait qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient m'interrompre de leur bon droit. Mais moi, j'avais autre chose à faire que d'être interrompue. Et Truisme, je l'ai écrit en marchant dans la rue. En marchant, c'est toujours ma méthode. Je marche, je laisse venir les idées. Aujourd'hui, personne ne m'embête plus. J'ai une paix royale. C'est pas parce que ça a progressé, hein. C'est parce que, comme les yaourts, je suis arrivée à ma date de péremption. Je vous le dis, parce que maintenant, je vois mes filles se faire embêter. Mes filles qui ont 19 et 15 ans. Mais quand je marche dans la rue, je réfléchis à ce que je vais écrire, comme n'importe quelle femme qui réfléchit à ce qu'elle va faire de sa journée, de sa vie. Voilà. Les femmes réfléchissent en marchant. Eh bien, on les interrompt. Et j'en perdais mes idées, quoi, d'énervement. Et Truisme est né de ça. Truisme est né de... Maintenant, je le sais.
Et Bordeaux, donc ces années SIDA, donc vous...
Bordeaux, le Mens. Alors le Mens, j'ai cherché sur internet et je n'ai trouvé qu'une seule mention de cette boîte. Et dans une sorte de guide qu'il faut ouvrir, enfin, c'est un PDF qui répertorie les lieux gays de Bordeaux de ces années-là. Et je crois que c'est un guide européen, mais c'est un tout petit truc, quoi. C'est la seule mention que j'ai trouvée. Et ben pourquoi ? Parce que c'était quand j'ai poussé la porte du Maine, c'était 1986 et ils ont commencé à mourir. Et c'était horrible et on savait pas. Enfin si, on savait de quoi mes copains. C'était plutôt des trentenaires au Maine. Et en fait ils s'absentaient, ils disparaissaient, ils revenaient plus. C'était avant Hervé Guibert. Hein, à l'homme qui ne m'a pas sauvé la vie, ça doit être 88, 89, par là. Hervé Guibert est le premier, avec Aron, à avoir affirmé qu'il avait le sida, à l'avoir dit publiquement. J'ai beaucoup lu Hervé Guibert à cause de la terreur qui régnait sur cette ville, en fait, particulièrement sur cette ville. Et je le raconte parce que toute ma génération, de façon, l'a vécu plus ou moins. Mais bien sûr que j'ai cru avoir attrapé le sida. On se protégeait pas. Il y avait j'avais des amants, bien sûr, qui étaient, on disait bisexuels à l'époque. Aujourd'hui, mes enfants, ils disent mais bisexuels, personne dit ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on dit fluide ou non binaire, ce qui est très bien. Enfin, c'est des concepts plus efficaces, non binaire, bisexuel. Bon. Et donc forcément, le sida courait, hein, il galopait le sida. Les pouvoirs publics faisaient rien et on se protégeait pas, on savait pas. Comme je le dis dans le livre, en 1986, une fille qui exige de mettre une capote, elle est complètement excentrique en fait. Personne ne faisait ça. Et donc, à l'époque, on pouvait pas faire des tests comme ça. Il fallait trouver le bon laboratoire, il fallait s'adresser à la bonne personne. J'avais entendu dire, comme Solange, que médecin du Monde faisait des tests, mais c'était à Paris, des tests gratuits, quoi. Il fallait. Et finalement, j'avais trouvé un dermatologue de la place de la Victoire, qui était un tout jeune homme, qui m'a écouté. Et le test, le résultat, c'était en une semaine. Je vous jure, c'est une semaine décisive pour moi. Et on a vécu, hein, on est plein à l'avoir vécu. Dans le film de Valeria Bruni Tedeschi, il y a une scène comme ça où les trois filles attendent après leur test. C'est exactement la même époque. Et ça nous a, ça a déterminé aussi une génération. Et quand le test s'est avéré négatif, et la scène, je la raconte telle que je l'ai vécue en fait dans le livre. C'est une amie à moi qui est allée, c'est ma Rose à moi qui est allée chercher les résultats du test. Et ma vie m'a été rendue, quoi. Et j'ai laissé à Bordeaux une part de ma mélancolie. À partir de là, je me suis dit, ok, t'as qu'une vie et tu vas écrire. Enfin, ça a été déterminant, quoi. Je pouvais pas passer à côté de ma vie, quoi. Mais c'est des expériences, quand on est si jeune, qui sont totalement métaphysiques. Enfin, c'est des expériences qu'on... Waouh, c'est lourd à porter, quoi.
Et cette violence, on la retrouve dans votre écriture, parce qu'il y a vraiment une forme de tension.
Ouais.
Dans votre écriture, c'est un roman qui est enlevé. On suit ces personnages avec vraiment une tension, je trouve. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au corps pour l'écrire de cette façon-là ? Parce que vos livres sont assez charnels, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ou complètement cinglé, comme disait mon ami Philippe Djian, mais vous rend aussi peut-être... Moi, ça m'a donné une forme de joie de vivre, ce qui m'a pas tué, quoi. Et j'aime bien voir aussi l'hétérosexualité sous son aspect comique. Quand Frédéric Boyer, mon éditeur, a lu le livre, il m'a appelé et il était hilar au téléphone et il m'a dit que chaque scène de sexe du livre l'avait fait mourir de rire, quoi. Mmh. Ce qui était un peu mon but. Même si elles ont un aspect sinistre, mais
oui, elles ont quelque chose de, à la fois dramatique et en même temps complètement décalé et risible, parce que c'est un peu la panique quand même.
Décalé, si on est sincère, chacun ou chacune avec sa propre sexualité, surtout celle de 17, 18, 19 ans. En fait, c'est pas décalé, c'est vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire que c'est quand même un long ratage, quoi. Il y a que les petits mecs virils du Pays Basque, les vrais petits machos de l'époque, qui croyaient qu'à chaque fois c'était des succès formidables, quoi. Surtout quand ça durait 7 secondes et qu'ils avaient l'air super contents d'eux. J'en ai vécu des comme ça. Mais la plupart ont pataugé, quoi. Et Christian, qui est amoureux de Rose, et j'aime beaucoup ce personnage de poète qui deviendra agent immobilier et alcoolique. Parce qu'il devient alcoolique parce que la masculinité telle qu'on veut la faire porter sur ses jeunes épaules, il supporte pas, en fait, c'est trop lourd pour lui. Bah, il peut pas au début avec Rose, et bien sûr que c'est très compliqué d'être un garçon si jeune, enfin, de quand on a comme modèle que alors on n'était pas encore à brevet de porno. Mais on avait quand même le porno encrypté de Canal+, vous savez. On essayait de voir dans les pixels ce qui se passait. On avait bien compris qu'il fallait être super performant. Les magazines féminins de ma mère étaient pleins de dossiers sur la frigidité. Je me rappelle tout un été de dossiers sur la frigidité. Je lisais ça, mais glacée d'horreur, en me disant, c'est forcément pour ma gueule. Enfin, et je suis désolée, mais je ne sais pas vous, hein, mais les premières expériences, soyons honnêtes, en tout cas, du côté des filles, c'est rarement le nirvana, quoi. Donc, je me disais, ça y est, c'est bon, je suis frigide, enfin, voilà. Donc, c'est très compliqué de commencer sa sexualité avec autant d'idées à la con qui vous pèsent sur les épaules, quoi.
Enfin, ce livre s'intitule « Fabriquer une femme ». On suit Rose et Solange de façon assez ténue. Et en même temps, c'est un portrait d'homme dans ce livre. Et moi, je trouve que le décalage dont je vous parle, c'est aussi celui de lire une époque. Vous écrivez quand même sur le temps, sur le rapport au corps du temps, parce qu'aujourd'hui, ça semble très décalé pour une jeune fille, me semble-t-il, qui lirait ce livre en disant, mais à quel moment ?
Bah, apparemment, c'est pas si décalé que ça.
C'est vrai ?
Sur les échos que j'en ai dans la jeune génération. Mais parce que heureusement,
est-ce qu'elles n'ont pas plus de culot, pardon ? Est-ce qu'elles n'ont pas plus de culot aujourd'hui pour dire, attends, sérieusement, tu penses que c'est funky là ?
Oui, j'espère qu'elles tiennent. Qu'elles affirment plus la légitimité de leur désir ou de leur non-désir, et sur la zone du consentement, ça progresse, mais très lentement quand même. Mais oui, on entend peut-être mieux leur non et leur oui à ces jeunes femmes, et les jeunes hommes aussi, en regard. Peut-être que c'est un peu plus fluide, justement. Mais je suis pas si sûre que ça non plus.
Enfin... Et puis leur connaissance du corps aussi.
Parce ouais, que vraiment... Ouais, enfin le clitoris, ça c'est récent quand même.
Ah, hein. c'est très récent,
c'est très très récent.
Mais bon, c'est une bonne nouvelle.
Et quand on voit les cours d'enseignement de la sexualité, ça reste encore extrêmement rudimentaire. Bon, après il y a des histoires de pudeur et la religion fait un énorme retour aussi, hein, donc ça reste très compliqué. Et mais je voulais dire aussi que ce qui m'a porté dans le livre, c'est une traversée des années 80 et 90, parce que même à la fin, on est déjà au tout début, il y a des téléphones portables à la fin. Il y a plusieurs journalistes qui ont comparé le livre à Bégodeau, dans son livre qui s'appelle L'amour.
L'amour, tout à fait.
Que j'ai lu il y a l'été d'avant, et effectivement, il y a une vitesse d'approche. Alors, c'est pas du tout la même histoire ou le même milieu social, mais c'est très agréable et c'est un vrai défi d'écriture. Enfin, j'aime pas le mot défi, mais c'est un vrai travail d'écriture, un vrai chantier. De traverser le temps en refusant absolument de dire et ensuite et deux ans plus tard, oulalalala, surtout pas deux ans plus tard et tout. Je sais pas comment je me débrouille, mais je contourne les obstacles et je fais passer la musique aussi parce que voilà, la musique change. La boîte de nuit où est ouvert Rose, elle passe du Men's que j'appelle le Moby Dick à au bain douche à Paris. Donc la bande son n'est plus la même, les stars qui passent ne sont plus les mêmes. Donc je fais passer le temps à ma façon, dans les vêtements aussi. Il y a un côté très frivole au livre, parce que Solange est un personnage frivole et c'est sa façon, elle, de survivre à sa vie qui a quand même démarré de façon très difficile. Sa frivolité est un héroïsme, comme je dis. C'est très difficile d'être... Il y a une dignité dans la frivolité que je trouve très belle, quoi. J'aime beaucoup cette Solange. Et Rose, elle est beaucoup plus sérieuse. Elle fait tout bien. Elle fait ses études de psycho. C'est une bonne fille pour ses parents. Elle les aime beaucoup. Elle a reçu beaucoup d'amour de leur part. C'est plus facile pour elle au début. Dans la première version que j'avais faite, le premier jet, je la trouvais presque antipathique. Je me suis dit, t'as pas le droit. C'est dégueulasse C'est dégueulasse de rendre Rose antipathique, tout ça parce qu'elle fait tout bien, quoi. Parce que j'ai été aussi Rose, j'ai été une bonne élève, j'ai essayé de faire tout bien. Bon, des fois ça a dérapé, mais j'ai essayé de faire ça. C'est vrai que c'est pas très bien perçu par les autres des fois. Donc je me suis dit, c'est dégueulasse, t'as pas le droit. Donc j'ai réécrit Rose en la rendant plus humaine, plus. Elle rate, comme disait Beckett, rater mieux. Ben voilà, elle rate mieux. Et ça m'est très sympathique.
Est-ce que Solange est plus forte ? Parce que finalement, quand on lit ce livre,
je sais pas.
On se dit que... Enfin, on se pose la question. Ouais. Parce que finalement, ce bagage affectif dont vous parlez de Rose, on a l'impression que ça la porte, que ça va l'aider. Puis quelque part, être habitué à se casser la gueule, comme Solange le fait, est-ce que ça la rend pas plus solide? Il y a une scène assez incroyable hein, sur Rose et les angoisses qu'elle peut avoir quand elle se retrouve toute seule à Paris, en prenant le RER, qui est une scène assez forte. Et on se pose la question de Solange, qui elle est prête quand même à un genou à terre, se relever et recommencer mille fois.
Je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, le roman est un art de l'ambiguïté, de... Moi, j'explique rien dans le roman, et je crois que je n'explique rien dans aucun de mes romans, au point que parfois, mon éditeur, mon co-éditeur qui est dans la salle, Jean-Paul Hirsch, me dit « Mais on comprend rien, expliquez un peu plus !» Bon, mais moi, j'aime bien que des fois, on comprenne pas tout, quoi. Et il me dit pas ça sur ce ton, hein, sinon je serais partie, mais... Mais on discute, c'est très intéressant de discuter sur le plan, avec un éditeur, quoi. Et donc ça m'est arrivé d'expliquer un tout petit peu plus, d'aller chercher chez moi comment je peux rendre cette scène plus lisible, plus limpide, mais sans jamais céder au... Elle se sentait très angoissée, voilà. Ça donne des romans où c'est vraiment aux lectrices et aux lecteurs de savoir peut-être qui vous préférez, qui est la plus forte, j'en sais rien. C'est une vraie question. Hein. Je l'ai aussi bâti pour qu'on se pose cette question.
Après, dans votre travail, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'interroge sur la fragilité, la déception, la résignation. Enfin, quelque part, vous avez cité dans la presse Jane Austen. On pense aussi, quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Virginia Woolf. On pense aux sœurs Brontë. On pense aussi à ces femmes qui ont écrit sur des sagas. De femmes qui essayent de se construire avec ce qu'elles ont, ce qu'elles peuvent, les rencontres qu'elles font, et quand même une haute idée de l'amour malgré tout, j'ai envie de dire.
Oui, c'est aussi un roman d'amour dans ce que ça peut avoir dans la conception la plus classique du terme. Et je dois beaucoup à toutes ces autrices que vous avez citées, et aussi à plein d'auteurs. Hein. Je dois énormément à Flaubert pour l'ironie, à Nabokov pour cette façon que j'adore de proposer des personnages qui savent pas très bien ce qu'ils ou elles font. Et j'invite les gens qui me lisent à en savoir un peu plus que le personnage lui-même. D'Antruisme, c'est évident. C'est-à-dire, d'Antruisme, elle sait vraiment pas ce qui lui arrive et elle sait pas ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle peut. Elle a pas de concept. Et j'ai aussi la plus grande estime et la plus grande affection pour ma cochonne de Truisme. Je l'aime beaucoup. Mais elle patauge, quoi. Vraiment, elle patauge dans la gadoue. Et vous, il me semble, enfin, en tout cas, les gens qui ont lu ce livre, vous avez un temps d'avance sur elle qui vous permet de vous... Si ça vous amuse, en tout cas, de lire comme ça, de... Ouais, par exemple, je me rappelle la scène de l'orgie où je décris très peu l'orgie, en fait. Et alors, il y a ma petite truie qui dit « Ah ben alors... Ah, mais alors ils ont attrapé la fille et puis ils l'ont pendue au lustre. Et oh là là, ce qu'ils lui faisaient quand même. Mais moi, je décris pas ce qu'ils font. Mais c'est dans la tête des lecteurs et des lectrices. Vous faites le cinéma là. Et c'est horrible en fait. C'est ça que j'appelle le temps d'avance. Donc, soit vous balancez le livre et vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est horrible. Soit ça, en fait, ça vous fait rire aussi, quoi. Parce que le rire est une réaction de défense. Et c'est aussi pour ça qu'on rit. Et je pense que certaines scènes de cul qui sont tellement effroyablement ratées, quoi, et décevantes. Moi, je crois qu'elles sont drôles parce qu'il y a un côté Buster Keaton du sexe, quoi. Rose et Christian, mais punaise, vous pouvez être sûr que dès que ça commence, ça va rater, quoi. Mais c'est mignon aussi, je crois. Enfin, ils ont une immense confiance l'un dans l'autre. Ils sont vraiment très amoureux, ces deux-là. Même si Rose, elle trouve un peu dommage d'avoir trouvé le bon, comme elle dit, dès l'école primaire. Hein. Ça, c'est quand même une malédiction. Donc, dans son village, quoi. Elle se pose la question, quoi. Platon. Les deux morceaux séparés qui doivent se retrouver et l'amour, voilà. Et elle, coup de bol, elle l'a trouvé dès l'école maternelle de son village, quoi. Alors ça l'interroge un peu sur le hasard, mais oui, elle va rester avec lui et peut-être elle a raison. Et là aussi, j'ai pas d'avis, vous voyez. Je sais bien que ça a un côté tragique de se conformer à ce point au modèle conjugal, à la fidélité. Mais peut-être qu'ils ont raison, ces deux-là. Je sais pas, en fait. Et Solange, je sais pas si elle a raison de mener sa vie comme elle la mène.
En tout cas, vous soulevez une sacrée question, à nouveau, j'ai envie de dire. C'est quand même celle du choix, de la carrière.
Et de la carrière, oui. Il y a ça aussi.
Avec la maternité.
Il y a ça aussi, oui. Freud disait qu'une psychanalyse réussie, c'est quand on a trouvé son amour et son métier. J'aime bien cette définition parce qu'elle est très simple. Et quand effectivement on arrête de se torturer sur est-ce que j'ai fait le bon choix avec cet amour-là, est-ce que j'ai fait le bon choix avec cette carrière-là, ça prend du temps. Hein. C'est... Mais je souhaite... Voilà, moi, j'ai été psy et je cherchais ça avec mes patients. Enfin, Lacan a ajouté, et c'est très juste aussi, qu'une psychanalyse réussie, c'est l'amour, le métier, et c'est aussi finir en n'étant pas trop raciste. J'aime bien ça aussi. La psychanalyse peut ça. Ça éclaircit un peu les idées. Et puis, il y a des tas d'autres définitions hein, qui sont intéressantes. Mais Rose, elle va devenir psychologue, pas psychiatre. Ça aussi, j'ai connu des années 80 où bah, les hommes étaient médecins et les filles infirmières. Quoi. Ça allait de soi. Il fallait vraiment fallait se battre pour être ambitieuse. Elle sera psychologue. Ça sera une très bonne psychologue, à mon avis. Et puis, elle a ce truc. Dans une autre époque, elle aurait été sorcière ou rebouteuse. Elle a un truc dans les mains. Alors ça vient vraiment de ma culture basque, même s'il y a des rebouteux un peu partout en France, hein, et même à Paris. Mais on les appelle des marabouts. Mais elle a quelque chose dans les mains de... Elle a du magnétisme dans les mains. Elle ne sait pas quoi en faire. Et les années 80 aussi étaient très peu accueillantes à quelque chose qui sortait des clous cartésiens, quoi, à quelque chose d'irrationnel. On se moquait très facilement de... Des gens qui allaient chercher d'autres réponses. C'était une époque où la religion, c'était vraiment l'argent, où c'était très mal vu d'être croyant. On se moquait beaucoup des croyants. J'ai vu ma famille se détacher de la religion. Je le dis sans regret. Enfin, voilà, c'était comme ça. Hein. Et j'ai vu un retour de ces superstitions pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais ça m'intéresse sur le plan romanesque.
Et en même temps, dans ce livre, donc Rose, elle s'apprête à devenir psychologue. Enfin, en tout cas, elle fait les études pour, etc. Ouais. Et puis...
À Talence.
C'est très intéressant, puisque vous dites aussi que c'est les débuts, finalement, où on commence à parler de façon un peu plus populaire des troubles autistiques.
Ouais, alors c'est aussi un livre très renseigné, c'est-à-dire que grâce à Internet, qui a changé la vie de tout le monde, et aussi des écrivains et des écrivaines, vous voyez, par exemple, je me rappelle très bien de la bibliothèque qui est pas très loin là où j'allais pendant mes années de prépa au lycée Montaigne chercher des livres. Peut-être certains d'entre vous ou certaines l'ont vécu. On remplissait des fiches en papier, on les donnait au préposé qui regardait, qui partait avec son chariot. On attendait des fois une heure. C'était pas du tout la faute des préposés, hein, c'est qu'il y avait affluence et tout. Il revenait avec le chariot. Avec les 4 livres qu'on avait commandés, parce qu'on était limité en nombre, ça aussi c'est un drôle de truc. Sur Internet, on n'est pas limité en nombre. Et c'était évidemment rarement le livre qu'on espérait. Enfin, on avait essayé d'évaluer ce que contenait le livre avec son titre, hein, et puis le fichier papier. Enfin, la jeune génération se rend pas compte. Donc on renvoyait les bouquins, on attendait. Ça reste inouï pour moi sur un clic de savoir très exactement si. Par exemple, l'échographie était disponible au Pays Basque en 1986. Eh ben, vous pouvez avoir la réponse. Et non, elle ne l'était pas. Et il fallait aller à Bordeaux. Je peux savoir. C'était quoi votre question sur
Je dis que ça m'a frappé parce que vous faites apparaître d'une façon plus médiatisée finalement, ou plus populaire, ou peut-être simplement dans la corporation des psychologues.
Ah oui, l'autisme.
Les troubles autisme. De l'autisme.
Oui. Alors là, je suis consciente d'avoir très légèrement triché parce que ça m'importait que Rose ait accès au mot spectre autistique. Au moment de ses études, or, le terme spectre autistique est vraiment arrivé en France au début des années 90 et a été popularisé au Québec à la fin des années 80. J'ai l'air d'être un puits de science. C'était un clic sur Internet hein, qui m'a permis de savoir tout ça. Donc j'ai un tout petit peu triché sur le temps, mais ça se joue à 2-3 années près.
Pourquoi c'était important de le mettre dans ce livre?
Alors, parce que j'ai le prochain livre en tête. Et sans vouloir trop, le mot autisme est un mot extrêmement chargé de conflits, de souffrances. Donc je ne vais pas m'amuser à rendre l'autisme romanesque, par exemple, ou même à... Je ne sais pas si je dirais le mot or. Là, le mot est dit dans le cadre de son cours de psychologie. Mais il est possible que l'enfant de Solange soit dans le spectre. Mais je ne vais pas m'amuser à dire qu'il est autiste. J'en sais rien. Je ne sais pas.
En tout cas, vous nous mettez déjà sur la voie dans celui-là.
Ouais, mais je décris un enfant qui est... En fait, je vais partir sur une voie totalement différente. Solange a eu un enfant beaucoup trop tôt. C'est dit dès le début. Elle est tombée enceinte comme les filles de mon village. Hein. Elle est tombée enceinte à 15 ans. Dans mon collège, il y avait même une Aline qui me fascinait. Aline, je me rappelle très bien d'elle. Elle était tombée enceinte à 14 ans. Il y avait aussi une fille qui s'appelait Brigitte, qu'on appelait Bijou, Elle, c'était une fille d'une famille catho bourgeoise, et elle, clairement, on l'avait pas laissé avorter. Et dans mon village, il y avait une, donc on appelait ça des filles mères. Il y avait une fille de paysan pauvre que sa famille avait cachée, enfin, mais quasiment dans un sous-sol, quoi. C'était horrible. Et je voyais ça, et personne n'en parlait. Il n'y avait pas de mots posés dessus. C'était comme ça, c'était des filles mères. Et moi, pour moi, l'enfant de Solange, donc Solange découvre avec sidération, hein, son accouchement est une horreur, qu'il y a une très grande différence entre accoucher et être mère. Et je le crois profondément. Et avoir la chance de devenir mère, de s'occuper d'un enfant avec amour, etc., ben, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Et elle met cet enfant sur terre, personne n'en veut, cet enfant, et il va être très abîmé par la vie, lui. Mais d'abord, c'est pas comme ça qu'on devient autiste. C'est beaucoup plus compliqué que ça, l'autisme. C'est probablement génétique, suivant les dernières études. Enfin, il y a des tas de choses là-dessus. Moi, je pense qu'il c'est un enfant, donc il va grandir. Je vais le raconter son histoire dans un autre livre. Bon, vous allez peut-être être un peu saisi de je sais pas quoi, mais je pense que c'est un enfant qui a été visité par des extraterrestres.
Voilà. Ah, quand même.
Oui, quand même. Et ça, ça m'amuse beaucoup à raconter. Et il y a la petite fille de Rose qui s'appelle Emma. Et elle, Emma, donc Emma, elle a 6 ans dans La mère à l'envers. Elle a 4-5 ans dans celui-là. Et elle va revenir et un jour, elle aura 20 ans. Et Emma, ce sera une grande chamane. Voilà. Je crois pas aux chamanes ou j'y crois, je sais pas, on s'en fiche. C'est puissamment romanesque. J'ai très envie de raconter la rencontre de ces deux-là.
C'est voilà. Quoi la littérature pour vous? Parce que finalement, on le voit bien, vous vous amusez énormément à écrire et vous n'avez pas peur des mots. Alors, je trouve que dans ce livre-là, à nouveau, on le voit bien, vous n'avez pas peur d'utiliser un vocabulaire parfois très cru, très frontal pour décrire les situations. Il n'y a pas de problème avec ça. La tension, elle est dans votre style narratif. Mais l'utilisation d'un mot, on a vraiment l'impression que c'est un grand bonheur pour vous quand même.
Oui, oui, je vais chercher des mots. Évidemment, c'est très intéressant quand on est écrivaine, les niveaux de langue. Bien entendu qu'au village, les gamins, entre eux, ils disent pas le mot pénis. Hein. Et aujourd'hui aussi, je vous assure qu'ils vont dire bite ou autre chose. C'est évident. Je vais pas les faire parler comme des livres, justement. Et j'ai appris à dialoguer. C'est le premier de mes livres où les dialogues occupent plusieurs pages.
Oui.
Je me suis beaucoup aguerrie sur les dialogues ou décomplexée, je sais pas. J'ai enfin compris comment faire des dialogues. Ça m'a pris plusieurs livres.
Pourquoi c'était difficile?
Je pense que dans au moins mes 10 premiers livres, il n'y a pas de dialogue. Dans Truisme, il n'y en a pas. Par contre, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, j'ai compris plus tard, mais le discours indirect libre. C'est grâce aux universitaires qui travaillent sur mes livres que j'ai compris que je faisais ça, en fait. Donc, en fait, j'ouvre pas les guillemets, mais on est tellement dans la tête du personnage que c'est comme si le personnage parlait. Et j'ai beaucoup pratiqué ça, j'adore ça. Mais maintenant, ça y est, je m'arrête, je mets 2 points et pouf, on a le dialogue. D'ailleurs, des fois, je ne mets pas les 2 points, mais ce n'est pas grave. Et en particulier, les dialogues entre Rose et Christian, quand ils s'engueulent, quand... J'ai beaucoup aimé écrire ça. Et ils utilisent leurs mots, mais pris dans ma narration. Donc, c'est assez difficile à faire, à vrai dire. Hein, mais ben, les personnages, ils ne parlent pas comme... Ben, ils parlent comme du mari d'Ariosec, je sais pas le dire autrement, quoi. Ils sont pris dans mon flux et dans mon rythme. C'est comme chanter une chanson. On suit un certain rythme.
Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien aussi avec le fait que le livre reste, malgré le décalage temporaire, reste incroyablement présent?
Ah oui, oui, j'espère. De toute façon, je m'adresse aux gens aujourd'hui. Et j'espère aux gens de tous âges et... De toute façon, quand j'écris, je ne pense pas aux gens qui liront. Je suis complètement prise par ma propre tambouille, quoi, par mon propre chantier. C'est un livre qui a été mis sur pause pendant longtemps, que j'ai arrêté au moment où Solange arrive à Bordeaux. Je me suis trouvée face à un problème technique, vraiment de passage du temps. Ça me cassait les pieds de devoir expliquer qu'elle avait emménagé dans sa piole et qu'elle n'avait pas assez d'argent et que donc sa piole était pourrie, mais que grâce à la prof qui l'a pris sous son aile, je voulais pas raconter tout ça. Je voulais aller tout de suite dans la boîte de nuit, dans le Men's. Je voulais aller tout de suite à l'épidémie de sida. Quand on écrit un livre, on a des choses à poser quoi, à des jalons. Et j'ai, ça fait très longtemps que je sais qu'il faut, il faut jamais faire de transition, il faut avancer quoi, il faut. Mais là, j'avais un problème quand même de rythmique, de, il fallait bien expliquer certaines choses quoi. Comment est-ce qu'une gamine du Pays Basque se retrouve en première quoi, au, dans un lycée bordelais, le lycée Molière? En fait, je m'en fichais un peu. J'avais juste besoin qu'elle aille à Bordeaux très vite. Elle fuit son village.
Mais en ça, on voit bien en fait les étapes. Parce que ce titre, Fabriquer une femme, dans la presse, on en a beaucoup parlé, hein, de ce côté, effectivement, du fer, de l'artisanat, etc. Mais finalement, ce qui ressort de votre livre, c'est que bah, le principe de fabriquer, c'est des étapes.
Mais le livre aussi est fabriqué au sens noble. C'est-à-dire que fabriquer, c'est le faber, c'est l'artisan, celui qui met sur l'établi, sur l'atelier, et je me vois vraiment comme ça, c'est-à-dire j'ai un atelier et le livre, donc je fais des premiers jets, des jets comme ça, j'essaie de pas du tout me censurer, enfin le mot est faible, hein, j'écris ce qu'il y a dans ma tête, mais je vois bien que ça va coincer sur des étapes narratives, donc je reprends, je recommence, et je vais essayer de vous retrouver le moment où elle arrive à Bordeaux, et je sais très bien que ce qui m'a libérée, c'est une histoire de couteau et de fourchette. Là, mes romans sont très concrets, très réalistes. Réalistes, il peut y avoir du fantastique hein, dedans. Mais même quand il y a des fantômes ou des spectres, etc., il y a toujours des frigos et des tupperwares dans les frigos. Et ça, c'est la chance d'écrire en étant née femme. Parce que c'est Chantal Akerman qui a compris ça de façon merveilleuse dans Jeanne Dielman. C'est que les femmes ont un vécu quotidien, une charge mentale, pour appeler ça comme ça, qui est passionnante et qui n'a jamais été prise en compte par la littérature classique. Flaubert parle merveilleusement de Madame Bovary, mais il lui met tout de suite une boniche là pour que, hein, que la maison roule sans Madame Bovary et qu'elle ait rien d'autre à faire que d'être amoureuse. C'est ça qui intéresse Flaubert. Alors que c'est passionnant d'aller du côté de la vie quotidienne de la maison, quoi. Et ben Solange, qui n'a vraiment rien d'une femme d'intérieur, en fait, dans la première version, elle arrive à Bordeaux, elle savait pas trop où aller. Bon, il y a un épisode où elle va au Chat Bleu, cette boîte mythique où tellement de groupes de rock ont été lancés, dont les horribles Noir Désir. Mais moi, j'étais une fan de Noir Désir dans les années 80, forcément. On savait pas encore que ce type était un tueur de femmes. Donc bon, mais alors qu'est-ce que c'était un putain de donneur de leçons déjà à l'époque, hein. Mais bon. Mais donc moi, j'ai vu des tas de groupes géniaux au Chat Bleu. Donc elle va d'abord au Chat Bleu, elle revient au village. En se disant que décidément la vie au village était sinistre. Bordeaux, c'était la grande ville. J'ai adoré Bordeaux, la rue Sainte-Catherine. Moi, j'habitais. Vous vous rendez compte? Je raconte ma vie, hein. Mais c'est parce qu'on est à Bordeaux là. J'avais trouvé. Donc, j'ai été interne au lycée Montaigne 2 ans, et ensuite avec mes copines, donc j'ai repiqué et je suis allée dans une petite colocation avec deux copines qui sont toujours mes amies. Et on payait 700 francs. 700 francs, c'est 100 euros. Un appartement de 3 grandes chambres avec une vraie cuisine qui était à l'angle de la rue des Trois Conils et de la rue Pierre-Louis de Jabrin. Et là, on a vu se construire la FNAC. Vous rendrez... C'était un taudis, hein. C'était un taudis sous les toits, mais ça nous allait merveilleusement bien. On adorait cet appartement avec une vue sur Bordeaux extraordinaire. Maintenant, c'est inabordable ce genre de coin pour des étudiants.
En tout cas, c'est pas 100 euros, ça c'est certain.
Ah, c'est sûr. Et donc, elle trouve une piole pas chère, et voilà. Et quand elle arrivait à Bordeaux la deuxième fois, elle entrait dans une église. J'ai beaucoup fait ça, gamine, parce que c'était des lieux ouverts à tout le monde, et où il y avait la paix, en fait. Enfin, il fallait pas trop croiser les curés, mais bon, on pouvait se mettre toute seule à réfléchir. Voilà. Et alors, voilà. Et donc, ça prenait des pages et des pages, son installation, c'était mortel. Et en fait, voilà ce que c'est devenu. C'est un petit paragraphe qui mange pas de pain, quoi, qui est pas terrible, hein, mais bon. Elle est chez elle, elle a la clé de cette porte. Maïder et Viviane, les profs, ont tout arrangé. La chambre est très peu chère, son père accepte de payer la caution, et le lycée Molière option théâtre, c'est nettement mieux qu'arrêter l'école. Même sa mère n'a pas pu dire non, sauf qu'elle a hurlé qu'elle gardait pas le chat. Ensuite, il y a une petite description de la piole. Et mine de rien, là je parle technique. Et le lycée Molière option théâtre, c'est nettement mieux qu'arrêter l'école. Avant, ça prenait 2 pages. C'est-à-dire que j'expliquais qu'en fait, vu qu'elle est fille mère, elle est quasiment au bord d'arrêter l'école. Il y a une assistante sociale qui s'occupe d'elle, mais ça marche pas, etc. Et que Maider, la prof de théâtre et d'espagnol géniale de son lycée, à Bayonne, en fait, à Bénor, lui dit, toi, va faire du théâtre. Et donc, j'ai raconté tout ça. Et alors, il fallait qu'elle déménage à Bordeaux, que Maider l'inscrive en option théâtre. Mais on n'en avait rien à faire. Et donc, voilà comment écrire serré, quoi. Écrire à l'os. Et après, un réchaud de camping, une casserole, une cuillère, du sel, de l'huile, une assiette, un verre. C'est tout son équipement. Puis deux verres, deux assiettes, deux fourchettes, deux couteaux. C'est parce que Brice est venu s'installer. Bim, bam, boum. Il n'y a pas besoin de plus. Alors qu'avant, elle rencontrait Brice et ils devenaient amis. Oh là là, pitié. Et là, on comprend que comme il y a deux assiettes et deux fourchettes, ils habitent ensemble.
Vous avez allégé, vous pensez, votre écriture?
Ah oui.
J'ai allégé votre pensée aussi.
Ça me permet de faire 300 pages, ce qui n'est pas non plus très long. Et en allant, chaque page est dense, quoi. D'ailleurs, c'est un certain travail de me lire et je le revendique. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée d'être, une fois que le livre est publié, que je me mets à penser aux personnes qui le liront et que j'espère, que j'attends d'être lu. C'est un travail qui se fait à deux. Et moi, je lis comme ça.
Je comprends.
Je lis vraiment comme ça.
Et à propos de Bordeaux, vous dites quand même dans ce livre, Bordeaux est une ville qui se tient raide comme un secret, c'est-à-dire...
Ça vient un peu de Philippe Solers, qui m'avait un peu pris sous son aile dans les années 90, et que j'aimais beaucoup avec tous ses défauts. Mais Philippe Solers est mort il y a un an à peu près. Et il avait des attaches très fortes avec Bordeaux et l'île de Ré, bien sûr. Et on parlait de Bordeaux tous les deux. Et il m'avait aidé à comprendre qu'effectivement, ces façades très belles, et il adorait le 18e siècle, lui. C'était un homme du 18e siècle et des années 80. Mais que c'était des façades qui se tenaient. Alors, je le dis comme ça, moi, mais il m'avait aidé à comprendre que c'était une ville. Où on pouvait rester à la surface. Moi, j'étais interne dans ce lycée et après dans cet appartement. Mais j'ai jamais été bordelaise. J'ai jamais été au Chartron, par exemple. C'est une ville qui ne vous invite pas si facilement. C'est une ville très bourgeoise par rapport à ce que j'avais connu moi de la campagne. Même s'il y a aussi des quartiers populaires à Bordeaux, mais quand on habitait comme moi au centre-ville, et qu'est-ce que j'aimais ça. Je voyais bien que cette ville ne s'ouvrait pas, voilà. Et j'ai assisté aussi à des scènes dans les années 80 très racistes à Bordeaux, vraiment des marchands sénégalais dans la rue qui se faisaient traiter, mais ça me touchait beaucoup, enfin, qui se faisaient insulter, c'était les années touche pas à mon pote aussi. Je l'évoque à peine, mais c'était les années Mitterrand. Mitterrand passe dans le livre, mais comme Solange et Rose, elles ont d'autres chats à fouetter, quoi.
Oui, oui. Bon, ouais. C'est vrai que dans ce livre, il y a aussi des gens très engagés politiquement.
Oui.
Mais ce sera ma dernière question, ouais. Marie Dariussec, puisque malheureusement le temps passe plus vite que nous le voudrions avec vous. Solange doit bien faire des choix pour avancer, pour accomplir son rêve de devenir comédienne. Et vous, qu'est-ce que vous avez eu comme choix à faire?
Oh, moi, j'ai quand même été très gâtée par la vie parce que j'ai été publiée très jeune, à 27 ans. Après beaucoup de... Bon, j'ai aussi intégré l'École normale supérieure, ce qui est loin d'être un détail parce que bon, j'ai beaucoup bossé pour ça, à Bordeaux, entre autres. Je suis aussi beaucoup allée en boîte de nuit, donc j'ai pris le temps. Mais cette école qui m'avait été indiquée par un professeur de français qui s'appelait Monsieur Louis, en première au lycée Cassin de Bayonne, parce que mes parents avaient beau être des gens lettrés à leur façon, ils connaissaient pas du tout le système des grandes écoles. Et ma mère voulait que je fasse un BTS tourisme, quoi. Enfin, il y avait pas du tout cette ambition-là à la maison, quoi. Et grâce à ce professeur, j'ai visé plus haut. J'ai beaucoup travaillé, j'ai intégré Normale Sup. Et là, j'ai écrit. Et puis, j'ai envoyé des manuscrits qui ont été refusés. Et puis, tout à coup, tourisme a été accepté. J'étais jeune. Et tourisme m'a ouvert le monde. Donc, j'ai pas eu tellement de choix à faire. Mon choix, j'ai même pas choisi d'écrire. Ça m'est tombé dessus quand j'étais toute petite. Donc je suis très différente d'elle. Je l'ai eu plus facile qu'elle en termes de vie. C'est très difficile d'écrire, mais c'est quand même une vie merveilleuse par rapport à la vie que elles ont.
J'ai triché parce que j'en ai une autre petite question, mais celle-là, parce qu'elle est plus rigolote, ouais. Pour finir cette interview, Marie Dariussec, dans ce livre, vous dites que, en fait, c'est quand même vachement mieux de se parler en voiture.
Ah oui, oui, bien sûr.
Alors je voudrais savoir pourquoi.
Ah, les mères et les filles en particulier, et en particulier dans les années 80, ça je l'ai vécu avec ma maman. Ma mère m'a expliqué ce que c'était les règles, les yeux fixés sur la route, droit devant elle, sans me regarder, et moi confuse à côté, regardant les bas-côtés. On se parlait comme ça, mais c'est aussi un endroit, c'est assez banal, je crois, de dire ça, mais où on peut se parler parce qu'on regarde la route, on est occupé à autre chose. C'est dans le dispositif de la psychanalyse, moi j'ai eu des patients en face à face, mais la psychanalyse pure et dure, on ne croise pas le regard de l'autre, et ça permet de divaguer, de raconter des choses qui vous passent par la tête, de lever toutes sortes de censures. Et la voiture, c'est bien aussi comme ça. Donc il y a des scènes effectivement où les personnages se parlent. Le regard sur la route.
Ouais. Et ce serait tout un débat très intéressant qu'on pourrait imaginer avec vous, justement, sur le fait de ne pas se regarder ou de se regarder. Parce qu'il est question de ça aussi dans votre livre. Et finalement, je terminerai sur ça. Ça donne aussi à votre livre une forme de tendresse. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah ben j'espère que c'est tendre. Et moi, j'ai l'impression d'être très tendre. Et c'est pas parce qu'on dit bite et cul de temps en temps dans la bouche des personnages, pas dans la narration elle-même, qu'on n'est pas tendre. Je ne peux pas écrire avec des personnages que je n'aime pas profondément. Donc j'ai beaucoup de tendresse pour elle et eux. Il y a juste un personnage qui s'appelle Arnaud, qui est vraiment le salopio de l'histoire. Et lui, je lui ferai la peau aussi dans mon roman chamanique. Voilà.
On a hâte. Merci Marie-Dariussec.
Merci beaucoup. Sylvie.